Alors, bienvenue à Pierre qui nous vient de l'Institut biblique de Genève. Sois le bienvenu.
Bonjour à tous et à toutes. Donc, je m'appelle Pierre Klipfel, je suis originaire d'Alsace. Je suis issu d'une famille dont mes parents n'étaient pas chrétiens. Ma mère était luthérienne non pratiquante et mon père catholique non pratiquant. Et j'ai fait quand même ma confirmation parce qu'il y a eu une difficulté dans ma vie, c'est que mon père est décédé d'un cancer en l'espace de quelques mois à l'âge de 11 ans. Et suite à cela, il y a un pasteur qui est venu visiter mon père et avant qu'il ne meure, une semaine avant, il lui a dit « mais ça serait quand même bien que tu t'occupes de ton éternité et aussi de celle de ta famille ». Et donc il lui a parlé de Jésus-Christ et du problème encore plus grand que le cancer spirituel, le péché qui était dans sa vie. On ne sait pas quelle est la décision que mon père a prise. En tout cas, il a eu la possibilité de se tourner vers Dieu s'il l'avait voulu, on ne le sait pas. Mais en tout cas, ma mère, dans le peu qu'elle a compris, elle a dit « bon, il faut au moins que je donne une éducation religieuse à mes enfants ». Et donc, j'ai suivi le catéchisme dans l'église luthérienne à Agneau, en Alsace. Malheureusement, je ne sais pas si on nous en a pas parlé. En tout cas, je ne me souviens pas qu'on nous ait parlé clairement de l'Évangile. Je sais qu'on apprenait les 10 commandements, on apprenait des versets de la Bible, on apprenait à se repérer un peu dans la Bible, mais je ne me souviens pas, mais peut-être que je n'étais pas prêt non plus. En tout cas, c'est quelques années après, parce qu'après ma confirmation, je ne voyais pas l'intérêt, une fois que j'avais reçu mes cadeaux, de rester, parce que c'était presque un genre de rite de passage. Hein. Pour mes copains catholiques, c'était la grande communion, pour nous les protestants, c'était la confirmation. Hein, c'était souvent l'occasion du premier verre d'alcool, de la première cigarette. Bon, pour moi, ça n'a pas été le cas. Mais après, j'ai quitté l'église. Mais en fait, Dieu m'attendait au tournant. J'ai un oncle qui est chrétien et qui m'a invité à faire un camp. Et c'est dans le cadre de ce camp, à l'âge de 15 ans, que Dieu m'a rencontré, s'est révélé à moi. Et c'est là que j'ai compris vraiment le sens de la croix. Avant, j'avais toujours un blocage, je me disais, mais bon, il est mort sur une croix, mais j'avais visité des présentations d'une association chrétienne contre l'abolition, enfin, pour l'abolition de la torture, l'ACAT, et puis j'avais vu des gens dans le monde, des chrétiens, des catholiques, des protestants, enfin, qui souffraient atrocement. Je me disais, bon, Jésus, il a aussi souffert comme eux, mais en quoi est-il exceptionnel? Et c'est que, durant ce camp, que j'ai compris que Jésus, non seulement n'était pas un homme comme les autres, c'était Dieu qui nous avait rejoints et qui s'était fait homme et qu'il était mort, surtout à ma place. Et que c'est moi qui aurais dû mourir sur la croix. Et ce jour-là, ça est un jour marqué d'une croix dans ma vie. Dans ma vie, hein, c'est pas toujours aussi évident. Maintenant, j'ai des enfants, ils ont grandi dans un foyer chrétien, donc c'est pas évident de marquer un avant et un après, mais pour moi c'était très clair. En revenant de ce camp, ma vie avait changé. J'ai plus fréquenté les mêmes personnes, et puis du jour au lendemain, je suis allé dans une église tous les dimanches, dans une église comme la vôtre. Et c'est voilà un peu pour que vous sachiez d'où je viens. Et après cela, je me suis engagé dans l'église, groupe de jeunes, présidence, prédication, et après j'ai fait aussi l'Institut biblique à Genève en 92-93. Et c'était une année déterminante pour moi aussi parce qu'elle m'a aidé, elle m'a servi de tremplin pour ma vie chrétienne. Parce que c'est là que j'ai vraiment appris à étudier la Bible. Je l'avais déjà lu plusieurs fois. Ça, c'est quelque chose parce que je me sentais un peu complexé vis-à-vis des copains au groupe de jeunes qui étaient de famille chrétienne. Alors je me suis dit, il faut que je les rattrape. Alors je lisais ma Bible, je lisais 4 chapitres par jour. Et quand j'y arrivais pas, le dimanche après-midi, je rattrapais. Et j'ai lu comme ça 7-8 fois la Bible, mais je dois reconnaître que l'Institut biblique, ça m'a aidé vraiment à approfondir mes connaissances et ça m'a aidé vraiment à tenir le coup. Et donc je lance un appel à vous qui avez l'occasion de mettre une année à part pour celui avec lequel vous allez passer l'éternité, quelle que soit votre orientation. Il faut savoir qu'à l'Institut, 2/3 des étudiants reprennent leur travail et on a besoin de chrétiens engagés dans le cadre de leur profession et qui servent de soutien aussi dans les églises. Mais je vous encourage à envisager la possibilité de mettre une année à part pour celui avec lequel vous allez passer l'éternité. Imaginez, on passe des années sur les bancs d'une école pour un métier qu'on va peut-être exercé 30, 40 ans. Enfin, aujourd'hui, on est appelé à changer plusieurs fois de métier, souvent dans une carrière. Mais imaginez, vous allez passer l'éternité avec Dieu. Et cette éternité, on la détermine ici-bas, dans les arènes de l'histoire. De ce côté-ci du ciel, les choses vont se décider. Et c'est de ce côté-ci du ciel que nous avons à manifester notre fierté d'appartenir à Dieu et d'être ses enfants. Ce matin, j'aimerais que nous puissions lire un texte de l'apôtre Paul qui se trouve dans l'épître de Paul aux Philippiens, au chapitre 3. Et je vous invite à lire les versets 10 à 17. Philippiens, chapitre 3, les versets 10 à 17. Et au travers de ce texte, Paul va répondre à deux questions fondamentales. Deux questions fondamentales. La première question à laquelle il va répondre, quel est le but de la vie? Ce n'est pas une question secondaire. Quel est le but de la vie? Quel est le but de ma vie et quel est le but de la vie de tous les chrétiens, pas seulement de l'apôtre Paul, un extraterrestre pour certains, se disant « mais lui, il a fait des choses, moi je ne pourrais pas faire le quart de la moitié ». Non, non, c'est une lettre qui est adressée à des chrétiens comme vous et moi. Et il va rappeler dans la section que nous allons lire quel est le but de la vie. Et la deuxième question à laquelle Paul va répondre, pas totalement, mais il va nous donner des éléments de réponse, c'est comment atteindre ce but. Quel est le but de la vie et comment l'atteindre? Question fondamentale, s'il en est. Je vous lis à partir du verset 10. Donc Philippiens 3, versets 10 à 17. Mon but est de le connaître, lui, c'est-à-dire la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si possible, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je poursuis ma course afin de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Christ Jésus. Frères, pour moi-même, je n'estime pas encore avoir saisi le prix, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et tendant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour obtenir le prix de la vocation céleste de Dieu en Christ Jésus. Nous tous, donc, qui sommes des hommes faits, ayons cette pensée, et si sur quelques points vous avez une pensée différente, Dieu vous révélera aussi ce qu'il en est. Seulement, au point où nous sommes parvenus, avançons ensemble. Soyez mes imitateurs, frères. Portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Il y avait un jeune homme, après la Deuxième Guerre mondiale, qui vivait aux États-Unis et il aimait beaucoup jouer au golf. Et il avait un but dans sa vie, c'était de posséder un jour un ranch. Et son rêve va pouvoir se réaliser parce que ce jeune était très doué au golf. Et il a gagné, durant sa carrière de golfeur, 15 des 18 tournois auxquels il a participé. Et une fois qu'il les avait gagnés, qu'il avait amassé suffisamment d'argent, qu'il était au sommet de sa gloire, il n'a pas voulu continuer comme golfeur, il avait ce qu'il voulait, l'argent pour s'acheter un ranch. Il s'est acheté un ranch et il s'est retiré. Au grand regret de ses fans et de tous ceux qui aimaient le golf, mais lui, le golf, c'était juste un moyen d'atteindre un but, avoir un ranch, posséder un ranch. Et vous, quel est votre but? Si quelqu'un vous croise dans la rue ou si un collègue de travail vous dit « mais je sais que toi tu es chrétien ou j'ai entendu parler que tu allais au culte le dimanche et puis que tu lisais la Bible, que tu pries, mais quel est le but de ta vie ?» Si quelqu'un devait vous poser cette question, que répondriez-vous? En tout cas, pour Paul, aucun doute possible. Pour lui, la réponse est claire. Mon but, c'est de le connaître. Mon but, c'est de le connaître. Le but de l'apôtre Paul, il le rappelle aux Philippiens, il dit la fierté de sa vie, c'est Jésus-Christ. Et c'est incroyable, au chapitre 3, là, de tous les versets quasiment transpirent de Christ. C'est Dieu ou Christ ? Christ est ma vie. Christ est toute sa vie. Et en fait, Paul, il utilise son témoignage personnel au début du chapitre 3 pour dire, mais voyez, vous avez vu le CV extraordinaire que j'ai ? Dans le judaïsme, j'étais très haut placé. J'ai fait les plus grandes écoles. Vous vous rendez compte, il a fait une des trois plus grandes universités de l'époque. Il y avait Alexandrie, Athènes et Tars. Et lui, il a étudié à Tars. Il a aussi étudié à Jérusalem, au pied de Gamaliel. Il est d'une grande lignée juive, de la tribu de Benjamin. Un homme qui devait impressionner par son CV. Et pourtant, Paul, qu'est-ce qu'il dit ? Toutes ces choses, toutes ces grandes études que j'ai faites, toute mon érudition, tout le prestige que j'ai acquis aux yeux des hommes, je le regarde comme de la boue, comme une ordure. Ces choses, je les laisse de côté. En comparaison de Jésus-Christ, tout ça, ça vaut rien. Ça ne veut pas dire que c'est inutile. Dieu a utilisé ces choses dans le parcours de Paul. Mais il dit, mais en comparaison de Jésus-Christ, tout ça, c'est comme de la boue. C'est pas grave si j'ai laissé tomber ma carrière. Si de persécuteur, je suis devenu persécuté. Ça lui a coûté, lui, de suivre le Christ. Il était persécuté. D'ailleurs, au début, les chrétiens se méfiaient. Ils devaient se dire, mais est-ce que c'est pas une stratégie, là, pour nous infiltrer, pour encore mieux nous persécuter ? Mon but est de le connaître, lui, Jésus-Christ. C'était le but de sa vie. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Parce que mon but, c'est de connaître Christ. Bon, tu étudies plein de choses sur Christ pour le connaître de mieux en mieux. Non, non, vous allez voir, Paul ne prend pas le risque d'être mal compris. Il nous explique clairement ce que ça veut dire connaître Christ. Ce n'est pas quelque chose d'abstrait. C'est quelque chose de très concret, très terre à terre et qui nous rejoint dans notre réalité quotidienne. Paul, dans tout ce chapitre 3, évoque son expérience personnelle. La rencontre avec Jésus-Christ qui entraîne un contraste saisissant entre l'avant et l'après cette rencontre. Et il nous rappelle qu'avant, il poursuivait certaines choses, mais aujourd'hui, en contraste, par rapport à la connaissance de Christ, toutes ces choses, elles sont comme des ordures, comme de la boue. En fait, Christ est le centre de la vie de Paul. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au chapitre 2, vous avez quelque chose de très beau aussi. Paul rappelle à ses amis philippiens ce que Jésus-Christ a fait. Jésus-Christ, il était dans le ciel, dans la gloire de Dieu. Il est Dieu lui-même. Et il s'est abaissé. Il s'est fait homme. Il a prêché. Il a été prédicateur itinérant. Mais finalement, il a été rejeté, arrêté, crucifié. Et ensuite, Dieu l'a élevé. Paul, il avait une situation prestigieuse, mais il a été abaissé. Sa conversion correspondait aux yeux des hommes à un abaissement. Il est devenu prédicateur itinérant. Il a été arrêté. Il a souffert. Au moment où il écrit aux Philippiens, il est en prison. C'est depuis une prison, probablement à Rome, qu'il écrit cette lettre. Il est en prison. Et peut-être qu'il va mourir, mais il a bon espoir d'être libéré. Pourtant, celui qui est sur le trône à ce moment-là n'est pas très commode. L'empereur n'est autre que Néron. On pense qu'il a été libéré après son emprisonnement à Philippe. Et il comparaîtra quelques années après, nouveau devant ce même Néron. Et cette fois-ci, il sera condamné à mort et il sera décapité. En fait, on se rend compte qu'il y a une similitude entre Jésus-Christ et Paul. Le parcours de Jésus, c'est le parcours du maître que Paul va suivre. Ça ne veut pas dire qu'on va tous, nous, être crucifiés. On n'est pas appelés à mourir pour notre salut ou pour le salut des autres. Jésus-Christ l'a fait une fois pour toutes à la croix. Mais ce que je veux dire, c'est que le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Et ce n'est pas un hasard si au chapitre 2, il nous présente le parcours de Jésus-Christ et qu'on se rend compte au chapitre 3 que le parcours de Paul ressemble à celui de Jésus-Christ. Parce qu'un disciple, il fait ce que fait son maître. L'apprenti fait comme son patron. Il le regarde, il l'observe et il fait pareil. Jésus, il a pris ses disciples à ses côtés pour qu'ils agissent comme lui aurait agi. Et bien sûr, les gens, face à Jésus-Christ, étaient amenés à se déterminer pour ou contre. Et face au message de l'Évangile, les hommes et les femmes d'aujourd'hui sont appelés à se déterminer pour ou contre. Et parfois, ça peut générer des difficultés. Et c'est intéressant, dans les versets qui précèdent notre lecture, il y a tout le processus de salut qui est décrit. Au verset 9, Paul nous parle de la justification. « Mon désir est d'être trouvé en lui, non pas avec une justice que j'aurais moi-même acquise en obéissant à la loi, mais avec la justice qui vient de la foi en Christ et que Dieu accorde à ceux qui croient. » Il dit « Je ne compte pas sur une justice que je me serais fabriquée, ma propre justice, mais je compte sur la justice que Dieu m'offre tel un cadeau, la grâce. » C'est un chantre de la grâce, la justification par le moyen de la foi. La sanctification, au verset 10, « C'est ainsi que je pourrais connaître le Christ. » C'est-à-dire expérimenter la puissance de sa résurrection et avoir part à ses souffrances en devenant semblable à lui jusque dans la mort. La sanctification. Le connaître, pour Paul, c'est la sanctification. Et au verset 11, il est question de la glorification afin de parvenir, quoi qu'il arrive, à la résurrection d'entre les morts. Justification, sanctification, glorification qui sont rappelées dans trois versets. Que veut dire concrètement connaître Christ? Première chose que j'aimerais souligner, Paul a fondé cette église à peu près 10 ans auparavant, lors de son deuxième voyage missionnaire, lorsqu'il est passé dans cette ville qui était une colonie romaine. Et vous savez que Paul, comme à son habitude, il essaie de trouver une synagogue, un lieu de prière, un lieu de culte juif. Et il se rend compte qu'il n'y en a pas, parce qu'il n'y avait pas le quorum de 10 hommes nécessaires à la création ou à la fondation d'une synagogue dans cette ville, ce qui n'est pas vraiment étonnant, puisque c'était une colonie romaine et qui était quand même assez récente. Mais par contre, on lui dit qu'il y a quelques personnes qui se retrouvent, des juifs ou des prosélytes, des personnes intéressées par le judaïsme, qui se retrouvent près du fleuve, et qui avait là un lieu de prière. Il se rend là et il rencontre notamment Lydie, la marchande de pourpre. Il y a aussi le geôlier de Philippe. Toutes ces personnes, enfin qui lui va se joindre après à l'église, mais il y a toutes ces personnes qui feront partie ensuite de cette église de Philippe. Et cette église existe environ depuis une dizaine d'années lorsqu'il leur écrit cette lettre. Et ce qui est particulier avec les Philippiens, c'est que ce sont des amis très proches de Paul. Il n'y a pas cette tension qu'on trouve dans d'autres épîtres où c'est très polémique. Ici, il écrit à des amis. Il livre son cœur. Ce sont des gens qui le soutiennent, qui prient pour lui, qui lui envoient de l'argent, qui lui envoient même un collaborateur en la personne d'Épaphrodite. Il y a vraiment un partenariat entre Paul. Et depuis les 10 années où il a fondé cette église et jusqu'au moment où il rédige ses lignes, il y a toujours eu une complicité entre les Philippiens et l'apôtre Paul. Ils l'ont toujours soutenu, c'était des partenaires à part entière. Mon but est de le connaître, lui. Et il explique, c'est-à-dire la puissance de sa résurrection. Qu'est-ce que ça veut dire? Paul est en train de nous dire que connaître Christ... Ça veut dire la puissance de sa résurrection. Mais c'est quoi la puissance de sa résurrection? On dirait qu'on passe d'un patois de Canaan à un autre. Mais la puissance de sa résurrection, c'est cette puissance que Dieu a mise en œuvre, on le voit en Éphésiens 1, au verset 18 et 20, cette même puissance qui a permis de ressusciter Jésus d'entre les morts, elle est à l'œuvre dans la vie de chaque chrétien pour le transformer. En fait, connaître Christ, c'est reconnaître l'œuvre de Dieu dans ma vie. Il agit dans ma vie avec puissance, dans la mesure où on le laisse agir, dans la mesure où on laisse agir son esprit dans notre vie. Cette même puissance est à l'œuvre en nous, pour nous rendre saints. Nous avons été déclarés justes et maintenant nous sommes dans une marche de sanctification. Nous sommes des enfants de Dieu et nous sommes appelés à grandir et de ressembler de plus en plus à qui ? À Jésus-Christ. Nous sommes appelés à ressembler de plus en plus à Jésus-Christ. Et pour cela, nous ne devons pas nous reposer sur nos propres forces, parce que la même, qu'est-ce qui nous permet d'être justifiés ? La grâce de Dieu, ce ne sont pas nos œuvres. Qu'est-ce qui nous permet d'être sanctifiés ? Moi, j'ai cru pendant des années que c'était nos œuvres, mais ce n'est pas le cas. C'est la grâce qui sanctifie. C'est réaliser que ce n'est pas moi qui peux me transformer. Je ne peux pas me lever le matin. Je peux décider que je veux changer, mais j'en suis incapable. Par contre, je peux dire, Seigneur, par ta puissance, change-moi. Et sa puissance se manifeste par son esprit en nous. Et la deuxième expression que Paul utilise pour expliquer ce que signifie connaître Dieu, la communion de ses souffrances. Donc Paul veut s'identifier avec Christ dans ses souffrances dans le but de mieux le connaître. Et je cite ce qu'il a déjà dit aux Philippiens au chapitre 1, versets 29 et 30. « Car il vous a été fait la grâce non seulement de croire en Christ, et ça c'est choquant, il vous a été fait la grâce non seulement de croire en Christ, mais encore de souffrir pour lui. En soutenant le même combat que vous m'avez vu livrer et que vous l'apprenez, je livre encore maintenant. » Il ne s'agit pas de masochisme spirituel. Mais Paul a compris que son maître était, comme Ésaïe l'a dit, méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Et que le suivre dans ce sens fait partie de la connaissance de Jésus-Christ. Connaître, c'est accepter le chemin de la souffrance. Je suis intimement convaincu que tout chrétien qui grandit passe par la souffrance. Ce n'est pas le seul moyen, mais c'est un moyen que Dieu utilise, à mon sens, systématiquement dans la vie de tous les croyants. Il nous fait passer par la souffrance, mais ce n'est pas un but en soi. C'est un moyen d'apprendre à mieux le connaître et à être plus dépendant de lui. La souffrance n'est pas un accident. Jésus a souffert, Paul a souffert, Timothée a souffert, Épaphrodite a souffert. Et qu'est-ce que dit Paul ? Accueillez Timothée, accueillez Épaphrodite comme si c'était moi-même. Eux aussi, ils marchent comme Christ a marché. Christ, c'est le modèle ultime. Et Paul, il imite le Christ. Et il dit, mais vous voyez Épaphrodite et Timothée. Ils m'imitent aussi, dans la mesure où j'imite le Christ. Et vous aussi imitez le Christ. Connaître le Christ, c'est aussi le suivre dans ce chemin de souffrance, dans la vie, immanquablement. Si vous voulez être fidèle à Dieu, vous allez passer par des difficultés. Mais ce n'est pas un sujet de tristesse pour Paul. Hein ? L'épître aux Philippiens est connu comme l'épître de la joie. On peut se réjouir parce que nous savons que ce n'est pas le dernier mot, ce n'est pas une fin en soi. Nous savons que la souffrance n'est qu'une partie de ce chemin qui nous conduit à mieux connaître Christ. Et c'est incroyable hein, de se retrouver dans des situations où Paul se retrouvait en prison, il arrivait à chanter et louer Dieu. Heureux d'être persécuté pour la cause de l'Évangile. Le connaître, c'est aussi accepter le chemin de souffrance. Et quand il dit « en devenant conforme à lui dans sa mort », en fait c'est pour résumer les deux expressions précédentes. Paul est rendu continuellement conforme à la mort de Christ, par les souffrances de tout son ministère et par la puissance de la résurrection. Les deux choses qui permettent à Paul de vivre ce qu'il appelle la conformité à la mort de Christ, eh bien, ce sont les souffrances de tout son ministère et la puissance de la résurrection que Dieu manifeste dans la vie de tout croyant pour le faire grandir. On ne devrait pas être surpris par cela. Finalement, le Christ nous a dit que chaque disciple devait être prêt à porter sa croix et à le suivre. En acceptant la puissance de Dieu et en comptant sur la puissance de Dieu, pas sur nos propres forces, surtout pas, et en acceptant aussi de vivre les difficultés avec Dieu. Parce que quand on les vit avec Dieu, elles nous transforment. Les difficultés, les souffrances gérées avec Dieu, c'est un peu comme l'argile entre les mains du divin potier. Il nous façonne et il fait de nous un vase qui va encore mieux manifester le trésor qui n'est pas le vase, mais qui est l'évangile, la bonne nouvelle qui est contenue dans ce vase. Et je crois que si on accepte la souffrance de cette manière, on pourra dire merci Seigneur. Finalement, cette épreuve, cette difficulté a fortifié ma foi. Par elle, tu m'as aidé à mieux te connaître. Et c'est ce qu'ont fait notamment les premiers apôtres. Actes chapitre 5, verset 41, je vous lis. « Ceux-ci se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir les outrages pour le nom du Seigneur. » C'est complètement à l'opposé de ce qu'on entend dans le monde. Paul est en train de dire, mais c'est un privilège de souffrir pour la cause de Christ. Vous n'êtes pas des extraterrestres si vous souffrez. C'est que vous passez par le chemin normal de la sanctification. Et franchement, je dois vous dire, je ne connais aucune personne qui ait compté dans ma vie, qui ait été un modèle dans ma vie, qui ne soit pas passé par la souffrance. Et ce qui m'a beaucoup interpellé chez ces personnes, c'est la manière de gérer les difficultés. On a un prof de relation d'aide qui disait, pour savoir ce qu'il y a dans un bocal, il faut le renverser. Si vous voulez savoir ce qu'a quelqu'un si vous voulez vraiment connaître la consistance de la foi de quelqu'un, observez-le dans l'épreuve. Et là, vous saurez vraiment où il en est avec Dieu. La manière dont vous gérez l'épreuve manifeste le degré de relation, d'intimité que vous avez déjà avec Jésus et avec Dieu. En 2 Corinthiens 4, vous avez de magnifiques passages où Paul dit « Nous portons toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus se manifeste dans notre corps. » C'est comme s'il disait « Mais par votre souffrance, c'est Christ qui doit ressortir, rejaillir. L'important, ce n'est pas le vase, c'est le trésor, l'évangile. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus se manifeste aussi dans notre chair mortelle. » Et un peu plus loin, « Sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. » Et au verset 17, « Car un moment de légère affliction produit pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. » En fait, au travers de nos souffrances, c'est comme si Dieu voulait que nous accumulions un trésor dans les cieux. On a investi dans l'éternité en gérant l'épreuve avec Dieu. Donc au verset 10, la connaissance dont il est question, comment connaître mieux Christ, qui est quand même le but de la vie, mais c'est en s'identifiant aux souffrances, à la mort et à la résurrection de Jésus. Accepter le chemin de souffrance, mais on n'est pas seul en comptant sur la puissance de Dieu. C'est par son esprit que nous pouvons vivre l'épreuve différemment d'une personne qui ne connaît pas Dieu. Et toute la différence, ce n'est pas nous, ce n'est pas notre capacité de résilience ou je ne sais quoi face à l'épreuve, c'est le Saint-Esprit qui peut nous donner la force de vivre ces épreuves dans la paix. Ça ne veut pas dire qu'on est tout de suite dans la paix. On peut passer comme Job ou d'autres personnes qui sont décrites dans l'Écriture, qui passent par l'épreuve, par des moments de révolte. C'est souvent d'ailleurs un long processus. Mais après, la leçon reste gravée comme au fer rouge. Et au verset 11, Paul nous explique une des raisons de sa déclaration. En fait, il a en vue la finalité. Un chrétien peut toujours dire, et moi je l'utilise souvent, le meilleur est devant nous. Et ça c'est sûr, quel que soit votre âge, le meilleur est devant nous. Vous vous rendez compte, ces quelques années sur terre ne sont rien en comparaison de l'éternité sans douleur, sans larmes, sans souffrance qui nous est réservée. Il n'y aura plus de douleur, plus de larmes, plus de péchés, plus de disputes, plus de conflits. On n'aura plus l'estomac qui se retournera à l'idée d'aller dans une salle d'opération, à l'idée de rencontrer quelqu'un qui nous déteste ou avec qui on a de grands problèmes. Tout ça, ça n'existera plus. C'est devant nous. Et ce n'est pas si loin que ça. Mais c'est vrai, quand on souffle, le temps paraît toujours plus long. Et quand il dit, et ça j'aimerais quand même le préciser, quand il dit « pour parvenir si possible à la résurrection d'entre les morts », c'est pas que Paul ait eu un quelconque doute quant à sa résurrection. Parce qu'une meilleure traduction, ça serait de dire « pour parvenir, quel qu'en soit le chemin, ou quoi qu'il arrive à la résurrection d'entre les morts ». Tout simplement, Paul ne savait pas quand le Seigneur reviendrait. S'il revenait avant sa mort, il ne passerait pas par la résurrection, il n'aurait pas besoin de ressusciter, puis son corps serait transformé directement en un corps glorieux. Mais il a dit « mais s'il vient après ma mort, alors là je passerai par la résurrection ». C'est tout ce qu'il est en train de dire. Il n'est pas en train d'exprimer un doute par rapport à cela. Donc soit le retour du Seigneur peut avoir lieu de son vivant, dans ce cas il aurait alors directement un corps de résurrection sans passer par la mort, soit il va d'abord mourir puis ressusciter des morts. Mais ce qui est important de retenir, c'est que Paul, tout ça, il l'accepte parce qu'il sait qu'il va à la rencontre de son Seigneur et qu'il va vers un avenir meilleur. Et rapidement, je passe sur les versets suivants. Il y avait dans cette église probablement des gens qui pensaient qu'ils pouvaient être parfaits. Et là, Paul introduit un petit correctif. Il nous rappelle au verset 12 que les gens parfaits, ça n'existe pas, et lui-même ne se considère pas comme étant parfait. En verset 12, il dit « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je poursuis ma course afin de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. » Ce qui est extraordinaire, c'est que Paul, au moment où il écrit aux Philippiens, il a déjà 30 ans de vie chrétienne au compteur. Vous vous rendez compte, 30 ans de vie chrétienne. Et il dit « Mon but, c'est de le connaître ». Quelle humilité! Parce qu'il sait, il est conscient que jusqu'à sa mort, il va encore apprendre. En fait, dans cette section, depuis le chapitre 2, verset 19, jusqu'au chapitre 3, verset 17, Paul, il est en train de leur dire, le but de la vie, c'est de connaître Christ. Et pour le connaître, vous avez besoin de modèles. Et notre modèle suprême, c'est Jésus-Christ. Mais Dieu sait que vous avez aussi besoin de modèles sur la terre. Et moi, je suis un modèle pour vous, les Philippiens. Timothée est un modèle pour vous. Épaphrodite est un modèle pour vous. Dans la mesure où on suit Christ comme modèle suprême, bien sûr. On a besoin de modèles. Et nos modèles ne sont pas des gens qui nous disent qu'ils sont arrivés. Ce sont des gens qui ont conscience qu'ils ont besoin de Dieu. Qui sont nos modèles? Est-ce que vous avez des modèles dans votre vie chrétienne? Et à quoi devraient ressembler ces modèles? Ce sont des gens qui prient, qui lisent leur Bible et qui sont de plus en plus sensibles au péché. Vous n'avez jamais remarqué que des gens, même que vous admirez, plus ils avancent, plus ils sont sensibles au péché, pourtant moins ils pêchent. Mais plus on comprend la grâce, plus on est sensible au péché, parce que plus on réalise que ça a coûté au Christ de mourir pour ses péchés. Et ce n'est pas que les gens pêchent de plus en plus, c'est juste que la sensibilité au péché augmente. Pour connaître Christ, nous devons accepter que nous ne pouvons pas nous transformer nous-mêmes. Nous avons besoin de sa puissance qui agit en nous. Nous avons besoin d'accepter le chemin de souffrance par lequel le Seigneur nous fera inévitablement passer. Et nous devons pour cela nous appuyer aussi sur les modèles que Dieu nous donne. Je suis sûr qu'ici, dans cette assemblée, il y a des personnes qui ont ce rôle. Mais ce n'est pas donné juste à quelques personnes. Nous sommes tous appelés à être des modèles pour les autres. Et les caractéristiques d'un de ces modèles, c'est qu'il sait qu'il n'est pas arrivé, qu'il a besoin encore d'apprendre. On est toujours en chemin. On a toujours quelque chose de nouveau à apprendre avec le Seigneur. La marche de la sanctification n'est jamais terminée. Ce travail sera achevé, sera parfait lorsque le Seigneur reviendra. Nous revêtirons alors un corps de résurrection et nous serons parfaits. La maturité, finalement, c'est de reconnaître qu'on n'est pas encore arrivé. On est en chemin. J'ai prié. Seigneur, je te remercie pour ta parole qui nous conduit par ton esprit à nous conformer à elle. Seigneur, nous ne voulons pas compter sur nos propres forces pour nous changer. Nous avons besoin de ton esprit. Merci parce que nous n'avons rien à produire. C'est une promesse. La même puissance qui était à l'œuvre pour te ressusciter d'entre les morts est à l'œuvre dans notre vie. Elle est là potentiellement chacun d'entre nous. Et nous voulons compter sur cette puissance de la résurrection pour nous laisser transformer. Seigneur, que si nous étions en train de te résister, que nous puissions lâcher prise et te laisser nous transformer. Et Seigneur, j'ai entendu parler de toutes ces personnes qui souffraient dans l'Assemblée, Seigneur, qu'elles puissent vivre ces moments avec toi et en pouvant compter sur le soutien de l'Assemblée. Et Seigneur, je te prie pour que les uns les autres deviennent des modèles dans cette Église, pour que les aînés puissent encourager les plus jeunes, pour qu'à leur tour, ils deviennent aussi des modèles. Des personnes qui te suivent et qui sont connues pour leur vie de piété, pour leur attachement à ta personne et qui sont connues comme ayant comme but suprême de vouloir te connaître. Merci Seigneur parce que cela est possible et c'est toi qui nous en donnes les moyens. Merci pour ton amour, ta grâce à notre égard. Qu'elle puisse nous conduire tout au long de cette semaine, qu'elle puisse soutenir aussi ceux qui n'ont pas pu venir parce qu'ils sont souffrants, parce qu'ils en ont été empêchés, que eux puissent être renouvelés dans leur être intérieur, même si leur être extérieur souffre. Seigneur, toi tu peux accomplir des choses puissantes dans leur vie et tu peux les transformer à ta gloire. Amen.
Merci pour ce que nous avons reçu ce matin. Merci Pierre pour ce partage sur l'épître aux Philippiens. C'est vrai qu'on a étudié l'épître aux Philippiens lors de nos études bibliques l'automne passé. Et ça fait du bien de nous rappeler que Christ est le modèle parfait, celui vers qui on doit tendre nos regards, celui de qui nous recevons toute chose, celui qui est notre espérance aussi. Je vous invite à partager les annonces de la semaine. Emmanuel, si tu peux juste voilà, les afficher. Samedi, il n'y aura pas de cross-training, pas de sport ici à l'église. Ce sera donc le samedi prochain dans 2 semaines. Oui.
Le groupe de jeunes samedi, c'est à 20h30 chez nous.
Chez vous. Donc voilà, groupe de jeunes à 20h30 chez Pierrick et Lydia. Samedi prochain. Je vous rappelle que dimanche prochain, attention, on change d'heure. Donc, attention de ne pas arriver 1 heure en retard. On dormira 1 heure de moins. Je vous laisse calculer dans quel sens il faut tourner vos montres. Mardi dans une semaine. Comment ? Mardi dans une semaine, donc on a notre assemblée générale ordinaire. Donc vous avez reçu les ordres du jour. Les membres sont bien sûr invités, les bienvenus. Ceux qui ne peuvent pas venir, pensez à donner votre pouvoir. C'est pas forcément évident de se retrouver en assemblée générale de ne pas avoir le quorum. Donc c'est important, lorsque vous pouvez pas être présent, que vous puissiez donner votre pouvoir à quelqu'un de confiance. Et puis, ce temps d'Assemblée Générale aussi, je le rappelle, est ouvert à toute personne qui fréquente l'Église, qu'on soit membre ou pas. Chacun est le bienvenu, la bienvenue, pour participer, pour vivre pleinement le fonctionnement de nos associations. Au fond de la salle, sur le petit meuble, il y a les inscriptions pour les Kanjab qui sont arrivées. Il y en a quelques-unes, il n'y en a pas beaucoup. N'hésitez pas à les utiliser. Vous pouvez aussi, j'imagine, aller sur le site internet de la JAB pour vous inscrire. Ne traînez pas. Certains camps sont assez rapidement remplis. Donc voilà, c'est à disposition. Utilisez-les. Je vous rappelle aussi les inscriptions qui sont donc ouvertes pour le club d'été depuis quelques semaines déjà. Voilà, il y a, je crois, beaucoup d'inscriptions déjà faites, hein, d'après ce que tu nous as dit. Mais n'hésitez pas aussi à vous inscrire tant qu'il y a encore de la place. Pensons, comme on l'a déjà dit, à ceux qui souffrent dans l'Assemblée. Sandy est présent ce matin parmi nous, Elodie aussi. On pense bien à vous. Ce n'est pas fini, on va encore prier pour vous, vous soutenir. Pensons aussi à Rachel, qui est encore faible. Rachel a toujours une infection encore qui se manifeste. Les médecins pensent avoir trouvé l'origine de ces infections. Donc, elle est en attente d'une prochaine opération. Donc, prions pour eux. C'est important aussi qu'ils soient vraiment soutenus dans le temps qu'ils vivent actuellement. Pensons aussi à Annelise. Annelise n'est pas très bien. C'est toujours difficile. Pensons vraiment à sa santé, prions pour elle. Voilà, puis aux autres personnes aussi, Charlie, Didier, Loredan, Zoé. On veut être dans la joie aussi quand on entend les nouvelles pour Guy, le frère de Rebecca. C'est vrai que ça va de mieux en mieux. Et c'est important de nous le rappeler aussi pour nous encourager aussi. Alors cette semaine, nous vous invitons à prier comme chaque semaine pour un pays dans lequel il y a de la persécution. On vous invite à prier pour les chrétiens qui sont au Kenya. Voilà, dans le Kenya, il y a des zones très variées au niveau de la persécution. Pensons aussi à nos amis chrétiens, voilà, qui sont au Kenya, donc dans l'est de l'Afrique. Est-ce qu'une information aurait été oubliée? Si ce n'est pas le cas, je vous invite à vous lever. Je vous lis encore trois versets qui sont dans les Philippiens. Philippiens au chapitre 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Bon dimanche, bonne semaine.